Make some noise.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Derrière,
l'objectif.
L'objectif.
Derrière l'objectif.
Je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à... ça va être très naïf ce que je vais dire, mais je me suis vraiment rendu compte que la géopolitique, c'était quelque chose de très très compliqué.
Photographe indépendant, Guillaume Binet a développé un volet documentaire de son travail pour la presse, notamment lors des conflits du printemps arabe et Moyen-Orientaux. Il travaille aussi régulièrement avec des organisations humanitaires telles que Médecins sans frontières ou Action contre la faim. Guillaume Binet est le cofondateur de MIOP, une agence spécialisée dans la photographie documentaire et le photo-reportage, qui investit cette année encore la semaine professionnelle des rencontres de la photographie d'Arles, qui vient tout juste de commencer et qu'on vous recommande. Derrière l'objectif de Guillaume Binet, nous sommes au Yémen en 2015.
Je suis Guillaume Binet, je suis photojournaliste, photo-reporter. Une de mes expériences les plus marquantes, sur plein de points, ça a été l'entrée au Yémen. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller grâce à MSF, qui maintenait le seul hôpital en fonction à Aden.
Il n'y a pas d'âge pour se battre et défendre son pays.
Nous, on fait la guerre pour des raisons religieuses.
Eux, ce sont des miliciens de la résistance. Les civils qui ont pris les armes pour repousser l'ennemi chiite, les Houthis. Le problème, c'est que la résistance est composée de groupes sunnites très différents, y compris les plus extrémistes.
C'est pas un peu dangereux d'aller rencontrer des gens d'Al-Qaïda ou du groupe État islamique ?
La principale garantie de sécurité ici, pour nous, MSF, c'est nos activités. Le fait qu'on ait soigné ces combattants et qu'ils soient passés par notre hôpital, on est reconnu comme une entité étrangère, mais légitime.
La charte, c'est soigner les gens dans les deux camps, quel que soit leur camp, chiite, sunnite ou autre, de la même façon, avec les mêmes méthodes, dans la même condition de sécurité.
Les French Doctors, comme on les appelle, ont opéré, soigné et soulagé pendant près de 12 heures, avant de reprendre demain leur mission humanitaire.
MSF, qui est présente dans le pays, tient un hôpital à Aden, qui est à ce moment-là sur la ligne de front. Un hôpital de traumatologie très actif, avec des expats qui sont là aussi, des grands professeurs de chirurgie et trauma. Et ils décident de maintenir ouvert cet hôpital, alors que c'est vraiment sur une ligne de front très, très active. Et en discutant avec eux, je trouve que c'est intéressant de couvrir cet événement-là. Personne n'y est vraiment allé jusqu'à présent. Il faut absolument, je trouve... mettre à jour ce drame. Donc on décide d'y aller, ce qui est très très compliqué parce que donc c'est un pays en guerre avec un gouvernement en exil, avec des forces en présence qui sont extrêmement diverses. On prend un bateau de Djibouti, on part de nuit, on charge des médicaments, des vivres, et ce petit bateau part au milieu de la houle de la mer Rouge. On voit des petites lumières à l'horizon qui sont les grands chalutiers et paquebots qui descendent du canal de Suez et qui descendent de la mer Rouge. On sait que c'est une mer dans laquelle il y a de la piraterie. C'est la nuit, une grande houle, la lune monte et descend. Enfin, c'est voilà les souvenirs que je peux avoir. C'est très très beau, mais ça fait assez peur et il y a vraiment une concentration due à la peur qui commence, quoi. Dans ces moments-là, tu sais pas où t'arrives. Donc au petit matin, on arrive sur les côtes yéménites, c'est très très beau. Enfin vraiment, c'est très beau le Yémen, il y a des montagnes et tout ça, c'est vraiment très beau. Et puis on longe la côte pendant assez longtemps jusqu'à arriver et voir Aden qui se distingue. Et là, on entend des tirs. Et puis on rentre dans le chenal du port et là on nous tire dessus. Alors les balles n'arrivent pas sur le bateau. Je pense que les outils qui tenaient l'endroit où on devait accoster tirent pour prévenir en fait que quelque chose se passe, que quelque chose arrive. Ça fout un peu les jetons, surtout qu'on est au milieu de la mer, il n'y a rien quoi. Tu peux pas te cacher quoi. Se dessine de Aden, la ville complètement cassée, quoi, complètement ravagée. C'est vraiment des images de guerre que j'ai peu vues, en fait, de telle destruction. Quoi. On sent qu'il y a eu des combats incessants ces derniers mois et c'est vraiment, vraiment, c'est des images de films. Quoi. Alors que d'habitude, il n'y a pas d'habitude, mais souvent, la guerre est présente à certains endroits, mais la destruction totale n'est pas quelque chose qu'on voit très, très souvent. Là, c'est vraiment tout, tout cassé. Il n'y a pas un mur qui n'a pas des impacts de balles, d'RPG. On accoste à côté de l'aéroport. L'aéroport était vraiment c'est une sorte de no man's land extrêmement disputé. Et là, avec les deux, trois pick-up d'MSF, on part vers l'hôpital et on se fait arrêter à tous les checkpoints, enfin des dizaines de checkpoints, et où il faut montrer des papiers, jusqu'à traverser la ligne de front et recommencer un certain nombre de checkpoints jusqu'à arriver à l'hôpital. Quoi. La route du port au centre-ville longe une côte qui était anciennement touristique et c'est très très impressionnant parce que ce sont que des grands hôtels complètement détruits, coupés en deux, ce sont que des superbes baraques au bord de la plage complètement explosées, des tanks vraiment exposés partout, les pick-up qui slaloment entre des trucs brûlés quoi. Et donc dans ces cas-là, on a les yeux grands ouverts et très concentrés et on sent que personne n'est très très serein, même les gens qui conduisent ces voitures, c'est vraiment un mouvement plutôt dangereux parce que c'est un mouvement qui a demandé les autorisations des deux camps pour pouvoir bouger, qui a demandé une logistique incroyable et qui peut déraper dans la seconde. Quoi. Il suffit que quelqu'un ne soit pas d'accord, ce qui s'est passé plein d'autres fois.
Derrière cette clôture, il y avait des boutiques, 8 à 10. Elles ont été toutes détruites. De l'autre côté, il y avait des commerces de bouche. On y vendait des raisins secs, des dattes, du café et du thé. Il y avait beaucoup de monde, car c'était le marché le plus important de la ville. Il n'y avait pas d'armes, c'était juste des citoyens.
La ville devait faire 10 km de large et 10 km de long. Enfin, vraiment, la ville était réduite à peau de chagrin et les outils qui l'encerclaient bombardaient tous les soirs les marchés, les maisons. Enfin, il y avait vraiment un bombardement à l'aveugle qui, tous les jours, tuait, amputait, blessait des civils. Quoi. Des civils et vraiment tout type de civils, pas simplement des hommes qui passaient par là. Enfin, il y avait énormément d'enfants blessés, en plus des combattants du haut front. Quoi. on était dans l'hôpital, tout le monde dormait, vivait dans l'hôpital, et toutes les heures, une sonnerie retentissait, et c'était ce qu'ils appellent une masque aviolytique, et vraiment le moment où il y a eu un bombardement qui a blessé énormément de gens, ou tué énormément de gens, et il faut que tout le monde soit sur le pont, et à ce moment-là, il y a des gens couchés par terre dans l'hôpital, qui sont soignés, qui sont amputés, qui sont, voilà, que les médecins essayent de sauver. Quand même. Il y a une photo que je regrette de ne pas avoir prise, ça c'est clair, qui m'a énormément questionné, qui me questionne encore maintenant. Lors d'une attaque, il y a un père qui apporte sa fille, qui avait pris une balle dans la tête. Une petite fille qui devait avoir 8-9 ans, à peu près l'âge de mes enfants. L'hôpital était vraiment surchargé, il y avait eu une attaque et c'était dur. Et cette petite fille, dans une zone de triage, s'est retrouvée toute seule. Et il y avait un brancard avec cette petite fille sur une table en fer, quoi, sur un brancard d'hôpital. Et la tête vaguement bandée, déformée, avec un bandage déjà sale, taché de sang et tout ça. Elle était vraiment toute seule, personne à côté, pas un infirmier dans la salle. Ils étaient occupés ailleurs. Et donc je me suis approché, sans prendre de photos, juste en étant sidéré par la solitude de la mort de cette petite fille. Et elle avait les yeux grands ouverts, elle était en hyperventilation, et elle me regardait. Je ne sais pas si elle me voyait, mais en tout cas, elle me regardait. Je lui ai pris la main et j'ai attendu. Et en ayant tout à fait conscience que je ne prendrais pas de photo. J'ai attendu en me disant que c'était ce que j'aurais voulu que quelqu'un fasse pour mes enfants, si un de mes enfants avait été dans cette situation-là. Et ça a duré assez longtemps, et elle me fixait avec une blessé à la tête et j'ai pas pris de photo. Ça a duré pas mal de temps et jusqu'à ce que j'appelle quelqu'un et que cette petite fille soit partie. Et j'ai vraiment pas pris de photo en parlant de dignité, enfin en me disant cette petite fille doit être tu dois respecter ce moment-là, quoi. Et en fait, je regrette énormément, parce que je pense que la seule chose que je pouvais faire pour elle, c'était de parler de ce moment-là. La seule chose que je pouvais faire pour mon métier, pour moi, pour nous tous, c'était de montrer que la guerre, c'est la guerre qui est indigne. Avoir une balle dans la tête quand on a 7 ans, c'est pas honteux, c'est pas indigne, c'est peut-être pas la dernière image qu'on a envie de laisser de soi, mais elle y pouvait rien, et le seul message qu'elle pouvait faire, c'était de transmettre son regard au monde pour dire c'est ça la guerre. C'est pas John Wayne, c'est pas le mur de l'Atlantique et je sais pas quoi, et des gens qui font tap tap tap. Et je regrette vraiment infiniment, et j'ai toujours son regard. Je sais pas ce que j'aurais pu faire comme photo, je sais pas, mais je pense que mon devoir, ce que j'ai pas fait là, c'était de prolonger son regard pour tout le monde. Et donc cette petite fille, outre le fait que j'ai son regard à vie et ses derniers moments là à vie, qu'est-ce que j'ai fait pour elle? Ce que j'aurais vraiment dû faire pour elle, c'était d'essayer de faire en sorte que ça s'arrête, quoi. Enfin, que de montrer ce que c'était que réellement la guerre. Et la guerre, c'est ça. C'est juste une petite fille qui meurt toute seule sur un brancard, quoi. Il y a une vraie part de responsabilité internationale là-dedans. C'est que, voilà, l'anecdote que je pourrais raconter, c'est qu'un jour, donc, je pars seul de l'hôpital. Enfin, seul, jamais seul, mais avec un chauffeur. Parce que malheureusement, je ne parle pas arabe, donc et un traducteur. Et le traducteur me dit est-ce que tu veux voir, il y a des chars détruits à tel endroit. Donc je dis oui, très bien, toutes les occasions étaient bonnes pour de toute façon aller se rapprocher du front et voir les différentes facettes de la ville. Je descends de la voiture et je sors, je prends une photo d'un char. Puis je fais une photo, puis je m'arrête tout de suite et je regarde le type, enfin le traducteur, et je lui dis, mais ce char, il n'est pas détruit, il est caché. Il a un bouchon de canon, voilà. Donc je venais de prendre en photo une position cachée d'un des belligérants. Ce qui se fait quand même moyennement. Là, un gros pick-up arrive, deux types descendent, je vois mon traducteur qui devient blême et il me dit c'est Al-Qaïda. Et donc je venais de prendre en photo une position d'Al-Qaïda péninsule arabique, donc il m'arrête. Et à ce moment-là, il se trouve que j'avais couvert pour Libération les attaques de Charlie Hebdo. C'était Al-Qaïda péninsule arabique qui a revendiqué les attaques de Charlie Hebdo. Donc moi, je me retrouve au Yémen, à la suite d'une imprudence de ma part, arrêté par Al-Qaïda péninsule arabique, mais qui était de notre côté cette fois-ci. Parce que Al-Qaïda péninsule arabique, ils sont sunnites, donc on combattait sur une ligne qui protégeait Aden, et les gens avec qui je discutais étaient du côté de la coalition qui était soutenue par la France, quoi. Enfin, voilà, il y avait vraiment un truc un peu... kafkaïen dans l'histoire. Et quelques heures après, ils m'ont laissé partir. Je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à... Bah, j'ai pas commencé, mais... Ça va être très naïf ce que je vais dire, mais je me suis vraiment rendu compte que la géopolitique, c'était quelque chose de très très compliqué. J'ai fait trois voyages au Yémen. Premier voyage, c'était ce front d'Aden. Je rentre et j'essaye de le vendre. Personne n'en avait parlé jusqu'à présent. Et comme ce que je pouvais raconter tout à l'heure, personne ne savait où était le Yémen. Mais personne n'en a voulu. Il n'y a pas un média français qui s'est intéressé au Yémen en juillet 2015. Pourtant, j'avais vraiment... je pense que mes photos n'étaient pas mauvaises. J'avais des histoires. Mais c'était trop compliqué, en fait. Expliquer où était le Yémen, qui étaient les Houthis, quelle était l'histoire du Yémen, un pays mais qui est très très compliqué quoi. Et personne n'avait assez de place quoi. Et puis BFM n'y était pas allé, donc personne n'avait validé le truc genre c'est super, on va pouvoir en parler. Donc j'y suis retourné ensuite à l'automne. Et là j'avais déjà un travail fait, donc j'ai fait un montage avec Libé et France Inter pour que conjointement on organise une semaine Yémen pour que justement on ait le temps. À partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup plus d'ouverture. Ça a été plus facile d'en parler. Enfin voilà, parce que peut-être qu'il fallait un peu apporter des informations, en tout cas préparer le terrain pour que d'autres médias puissent faire des choses plus courtes en faisant référence à un site internet, un machin, un truc ça. C'est pas, je dis pas qu'ils n'étaient pas intéressés. Je dis que c'était trop compliqué.
Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.